Voilà, bonjour. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'Église. La vraie, pas une Église ou une dénomination, hein, mais c'est le jour où on fête la Pentecôte. Et j'aimerais faire un petit retour sur la première Pentecôte et en même temps vous parler d'un conte italien bien connu, Pinocchio. Alors on va voir comment ces deux choses-là peuvent se mélanger. Je voudrais juste lire quelques versets dans le livre des Actes, qu'on appelle en général le livre des Actes des Apôtres, mais qu'on devrait appeler le livre des Actes du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui agit, hein, au travers des gens. Donc acte 1, verset 1, tout simplement, c'est Luc, donc celui qui a écrit l'évangile de Luc, qui continue ce livre-là. C'est pour ça qu'il dit: j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent: « Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit: « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et puis, chapitre 2, verset 1, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Voilà, on a ces deux textes qui nous parlent de cette première Pentecôte. Alors, ce n'était pas la première Pentecôte. Pentecôte est une fête juive qui existait depuis longtemps. Mais cette première Pentecôte où l'Esprit est venu après la résurrection du Christ, après qu'il ait passé ses 40 jours avec eux sur terre, et puis la semaine dernière, il y avait l'Ascension fêtée, hein. Il est reparti au ciel, et puis ensuite, il y a cet événement-là. Et je voudrais m'arrêter un peu déjà sur ce qu'il est dit dans ces textes-là. Hein, il est dit, comme il se trouvait avec eux, donc il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Ne pas s'éloigner et attendre. C'est deux choses qu'on a du mal à faire de nos jours. Hein? Ne pas s'éloigner et attendre. Et j'étais impressionné ce matin, c'était triste, d'observer que je devais passer chercher Philippe à 40, il était 32, il me restait 5-6 minutes. Hein. Et il n'y a encore pas si longtemps que ça, je me serais assis pour lire, ou pour réfléchir, ou pour méditer. Là, j'ai commencé de sortir mon attel pour regarder si je n'avais pas un message, parce qu'il me restait 4 minutes à attendre. Et on se dit, mais c'est grave, hein, c'est très grave. Je ne sais plus attendre. Alors que je suis quelqu'un qui suis plutôt contemplatif, j'aimais les moments d'attente. Ça ne m'a jamais gêné quand les gens étaient en retard en rendez-vous. Parce que, je ne dis pas ça pour que vous veniez tous en retard au rendez-vous, mais ça me donnait du temps pour réfléchir, pour méditer, pour penser, pour prier. Hein. Et là, on voit que Jésus s'en va et il leur dit, ne vous éloignez pas et attendez. Et je me disais, rien que dans ces paroles-là, il y aurait un message incroyable pour nous, très pratique pour nos vies. Hein. Ne pas nous éloigner, alors pour eux c'était Jérusalem, pour nous c'est de la présence de Dieu, de qui il est, de ses valeurs. On a entendu ce que Ami nous a partagé dans son témoignage, hein, ne pas s'éloigner de la vérité non plus, etc., etc. Ne pas s'éloigner, parce que c'est naturellement, notre cœur s'éloigne hein, des bonnes choses, de Dieu, de sa vie, de son amour, de sa grâce, de son pardon. On va du bon vers le moins bon, c'est comme ça. On est naturellement fait comme ça, depuis le mauvais choix que nous avons fait d'être autonomes vis-à-vis de Dieu. Et puis on n'aime pas attendre. On n'aime pas attendre. Et c'est quelque chose qui s'aggrave encore plus hein, quand on voit les générations qui arrivent derrière. Quand je vois ma fille qui a bientôt 15 ans, je suis effrayé. Mais 3 secondes, c'est long. Hein? Sauf quand je l'appelle. Par contre, là, ça peut prendre du temps. Je dois attendre. Hein? Mais on ne sait plus attendre. Et puis là, Jésus s'en va et leur dit « Attendez !» Puis bon, ils ne savent pas quand c'est que ça va arriver. Ça a duré 10 jours, mais ça aurait pu durer plus, moins, aussi. Voilà. Et ils ont attendu. Il y avait une promesse. Alors, on voit que juste après que Jésus leur ait dit ça, ils posent une question à Jésus. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras Israël ? Et j'ai trouvé ça incroyable, là aussi parce que ça me ramenait à moi. Jésus leur a dit des centaines et des centaines de fois, hein, pendant ces 3 ans avec eux, « Mon royaume n'est pas de ce monde, c'est autre chose, c'est en vous, c'est dans vos cœurs, la question du temps, de ci, de ça, c'est pas votre problème, etc. Hein. » Mais ils sont toujours coincés sur leur propre projet. Ils veulent un roi qui rétablisse Israël et qu'Israël vire les Romains et reprenne le contrôle. Et c'est une idée fixe. Et pourtant, il s'est passé depuis, Jésus est mort, il est ressuscité, il leur est apparu. Enfin, ils ont vécu ces choses-là, quoi. Mais chasser le naturiste, il revient au bungalow. Non, chasser le naturel, il revient au galop. Est-ce que c'est là hein? Et je me disais, c'est tellement moi ça. Quand je m'approche de Dieu, j'ai déjà décidé ce qu'il fallait qu'il fasse. Et je suis là et mon idée fixe. Et puis, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et puis Dieu dit, ne t'éloigne pas et attends. Ah, donc j'attends. J'attends pour que tu fasses ce que je veux que tu fasses. Quoi. Non, ne t'éloigne pas et attends et je vais faire quelque chose que tu n'attends pas. Parce que Dieu est Dieu. Il est bien au-dessus de nous, plus grand, plus fort, plus intelligent, plus sage, plus tout. Et puis, il sait ce qu'il nous faut, et ce que nous, on désire, c'est rarement ce qui est bon pour nous. Donc, ne t'éloigne pas et attends. Mais, alors, on voit comment les disciples, il y a un mélange de quand même de... Ben, ils espéraient qu'ils fassent ce qu'eux voudraient, mais ils ont quand même obéi. Ils ne se sont pas éloignés. Et ils ont attendu. Et ça, c'est pas une question de mérite, mais c'est ce qu'ils ont bien fait, quoi. Ils ont attendu. Et il est dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et ils se sont accrochés. Parce que je peux imaginer, bon, Jésus s'en va, il remonte au ciel, il dit « je reviens bientôt ». Ben, je reviens bientôt. Moi, quand quelqu'un me dit « je reviens bientôt », je l'attends dans l'heure qui suit, dans la journée, dans 2 jours, dans 3 jours, ben, pas dans 10 jours, encore moins dans 2000 ans. Hein. Mais parce que si ça tarde, pendant combien de temps on va se retrouver ? Sans plan, sans but, sans... Il n'y a rien. Hein. Ils ont posé une question, il leur a dit « ça ne vous regarde pas ». Juste, attendez et ne vous éloignez pas. Ils l'ont juste fait. Ils ont attendu, ils ne se sont pas éloignés, et ils sont restés les uns avec les autres. Et moi, je pense que vraiment, ce qui leur a permis de tenir ces 10 jours-là, c'est parce qu'ils n'étaient pas seuls. Moi, je n'attendrai pas pendant 10 jours tout seul quelqu'un qui me dit « je reviens bientôt, hein. Attendez. » Ouais, j'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, non, même pas. Hein. Mais ils étaient tous ensemble. Et je peux imaginer le nombre de fois qu'il y avait un des disciples, et en plus il n'y avait pas que des hommes, il y avait des femmes aussi, hein, heureusement, ils sont souvent plus sages. Je peux imaginer Pierre, parce qu'en général c'était le premier à être impatient, et, bon ben il n'est pas là, ben, on va faire autre chose. Quoi, hein. Puis quelqu'un qui dit, ouais mais il nous a dit d'attendre, On attend encore un peu. Ok, bon, j'attends encore un peu. Et puis le coup d'après, c'était quelqu'un d'autre. Et puis, mais chaque fois, et puis ils attendaient. Hein. Et puis ils attendaient pas sans rien faire. Le texte nous dit ailleurs que, ben, en attendant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient, ils méditaient, ils chantaient, ils s'encourageaient dans la foi. Il nous a dit d'attendre, alors on attend. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Et en fait, ça pourrait résumer ce que Dieu attend pour nos vies. Attendre de recevoir, pas attendre qu'il fasse ce que nous on veut qu'il fasse, même si c'est des bonnes choses, hein. Attendre de recevoir ce qu'il veut nous donner. Ça devrait être le résumé de nos vies. Ne pas s'éloigner et attendre de recevoir. Donc c'est une attente active, hein, parce que, oui, c'est bon, ben, écoute, je retourne à la pêche, littéralement, comme Pierre, hein, ou je vais faire autre chose, et puis quand il reviendra, ben, je le saurai bien d'une façon ou d'une autre. Non, il faut à la fois le désir et la décision active de ne pas s'éloigner de lui, de sa présence, de qui il est, de tout ce qu'il est, et en même temps, cette patience qui consent à ben, « c'est quand tu veux, moi je suis là, je suis disponible ». Et en fait, ça devrait s'appliquer à tout dans nos vies. Hein. Quand, je ne sais pas, on a chacun notre rythme, j'allais dire, avec Dieu, il y en a c'est le matin, leur culte du matin, il y en a c'est à midi, il y en a c'est le soir, peu importe. Mais ces moments particuliers qu'on met à part pour Dieu, à quoi ils doivent ressembler? Ben, j'en sais rien, selon les moments de nos vies, ils sont différents. Mais ils pourraient se résumer dans une chose. C'est des moments où on refuse de s'éloigner, c'est-à-dire on se rapproche intentionnellement en disant « Je t'offre ce moment et je m'attends à toi. J'attends. J'attends que tu me parles, j'attends que tu me remplisses, j'attends que tu me corriges peut-être, j'attends que tu me conduises, mais j'attends. Et puis s'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Ils sont restés des heures et des heures à attendre sans qu'il se passe grand-chose d'extraordinaire. Mais eux, leur job, c'était « je ne m'éloigne pas et j'attends ». Et puis, on part tellement dans des choses compliquées dans nos vies, et puis si on pouvait revenir à cette chose simple de se dire « je me lève le matin et bien sûr j'ai tout ce que j'ai à faire, mon travail, mes activités, mais le but dans ma vie spirituelle, c'est ne pas m'éloigner ». Et attendre que Dieu agisse, qu'il me remplisse. Hein. Et donc, j'ai dit, ils étaient tous ensemble. Et là, il va y avoir cette venue de l'Esprit qui, pour la première fois dans l'histoire, ne va pas venir sur un individu pour un certain temps, pour une tâche particulière. Hein. David a été rempli de l'Esprit, Moïse à un moment, et l'autre, et lui, et là. Mais là, c'est tous, la communauté de tous ceux qui croyaient, hein, qui sont là et qui vont tous être remplis du Saint-Esprit, mais en plus, pas juste pour un jour, pour deux, pour trois, pour un petit moment, il va venir faire sa demeure dans les croyants. Et c'est par lui que Christ va devenir quelque chose d'intérieur. C'est pour ça que, j'en ai parlé la semaine dernière, Jésus dit à ses disciples, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille ». Parce que si je reste là, il ne viendra pas. Et puis s'il ne vient pas, même si je suis à côté de vous, je suis à l'extérieur. Je peux vous tenir dans mes bras et je suis dehors. Mais une fois que Christ est parti et qu'il nous envoie l'Esprit, l'Esprit, il est à l'intérieur. Et c'est pour ça que notre relation avec Dieu est la relation la plus intime qui existe. Même un homme et une femme dans le mariage, ils sont proches, très très proches, plus que proches. Mais ils restent chacun, l'un et l'autre. Hein. Mais Christ est en nous. Pas le fait qu'on se fond et puis il n'existe plus ou nous on n'existe plus, mais il nous connaît de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et là, il va se passer un basculement incroyable. Et on a des prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de ça et qui illustrent ça de très très belle façon. Et c'est là où on va rejoindre notre histoire de Pinocchio. Hein. Mais dans Ézéchiel 36, je vais lire deux versets, même trois, de 25 à 27, il est dit ceci. C'est Dieu qui parle par le prophète Ézéchiel. « Je répandrai sur vous une eau pure, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Ça, c'est ce que Christ est venu faire en venant sur terre, mourir, ressusciter, hein, nous purifier, que nous puissions être pardonnés. Pas parce que nous sommes devenus purs, mais parce qu'il a pris le mal sur lui et il nous donne sa pureté, si nous l'acceptons. Et je mettrai en vous un et je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et cette promesse qui était magnifique, c'est ce qui se réalise là, il y a d'autres prophéties qui se réalisent, mais je vais régler le problème du péché, de la culpabilité, je vous purifierai. Et puis, je vais enlever votre cœur de pierre et vous donner un cœur de chair. Et je vais vous donner un esprit nouveau et je mettrai mon esprit en vous. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable, dans le sens le plus littéral du mot incroyable, qu'on n'arrive pas à croire. Mais pourtant, c'est une réalité. Et on voit au travers toute l'histoire qui est racontée du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, les tentatives de contrôler le mal et le péché par l'extérieur. Tu feras pas. Et dans le meilleur des cas, quand je dis le meilleur des cas, c'est peut-être le pire, mais... Je veux dire, la personne la plus honnête et la plus sincère dans ce système-là, ça peut être qu'un fanatique religieux. Le produit de ça, c'est Paul, qui poursuivait les chrétiens pour les lapider, ou Ben Laden, ou, ben, parce qu'il n'y a, pas que le... Mais quelle que soit la religion appliquée à l'extrême, elle peut amener qu'à ça, au fanatisme religieux qui tue les autres. Et la religion qui agit sur l'extérieur en espérant contrôler l'intérieur, bah c'est l'histoire de Pinocchio qui est une marionnette et puis qui est contrôlée avec des ficelles. Et puis, bah voilà, celui qui tire les ficelles lui fait faire ce qu'il veut. Et vous connaissez ce conte, à un moment, il y a une gentille fée qui vient et le personnage en bois se transforme en petit garçon. Et c'est ce qui se passe à la Pentecôte. Les lois étaient là pour, ben, tu vois, il faut tirer les ficelles, voilà, il ne faut pas convoiter, il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher, il ne faut pas mentir, il faut être honnête, il faut être gentil, il faut se reposer le samedi. Et, c'était compliqué de tirer sur ces ficelles pour contrôler nos... Parce qu'au-dedans, notre cœur disait autre chose. Mais moi, j'ai envie de convoiter la femme du voisin. Mais moi, j'ai envie de piquer ses moutons, il en a plus que moi. Et moi, j'ai envie de lui taper sur la tête parce qu'il m'énerve. Et moi, puis il ne faut pas le faire. C'est dur. Et puis Christ vient, et lui il est parfait, lui il est pur, lui il est bon, on ne comprend rien, on veut le faire au roi, on le tue, il ressuscite. Et puis là il dit, maintenant il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais attendez, restez là, attendez, ne vous éloignez pas, attendez. Et puis il y a ce jour magnifique où l'esprit descend, et tout d'un coup les marionnettes deviennent des vrais êtres humains avec un cœur. Un cœur de chair, un cœur qui peut être connecté au cœur de Dieu et qui ressent les choses comme lui. Alors, nous ne devenons pas parfaits, nous ne devenons pas Dieu, nous restons des humains. Mais nous avons la possibilité maintenant de vivre autrement, plus avec un contrôle extérieur, comme des bonnes marionnettes qui vont le dimanche au culte, écouter le pasteur, mettre 10 francs dans l'offrande, mettre 20, c'est mieux, et faire ci, pas faire ça, et puis qui n'y arrivent pas et qui sont coupables, ou qui y arrivent et qui sont tellement orgueilleuses parce qu'elles y arrivent. Non, on devient des êtres vivants, imparfaits, abîmés, cabossés, un peu fêlés, un peu déchirés, un peu ci, un peu ça, mais vivants et connectés avec Dieu, Et le premier miracle qui se passe là, dans tout ce grand événement, donc ça se met, on voit comme des flammes de feu, et ils se mettent à parler des langues. Mais ce n'est pas une langue bizarre. Le sujet que Paul aborde dans 1 Corinthiens sur le parler en langue, ça n'a rien à voir avec quoi qu'on en pense, ça n'a rien à voir avec ce qui est texte-là. Là, ils se mettent à parler des langues connues. Et c'est le principe, lorsque Dieu vient rencontrer les humains, il parle à chacun dans la langue de son cœur. Oui, c'est les mêmes choses, mais Dieu ne parle pas à Jean-Jacques comme à moi, il ne parle pas à Ami comme à moi, ni à Isabelle ou à Anne-Rose. Non. Pourquoi ? Ben parce que je suis unique, je suis ce que je suis, avec, comme je l'ai dit, toutes mes erreurs, mes fêlures, mes cassures, etc. Mais j'ai un langage intérieur secret unique. Et le Saint-Esprit, quand il vient, parce que la religion, hein, vous savez, le principe de la religion, c'est on fait des boîtes et il faut rentrer dedans. T'es trop grand pour la boîte, on coupe la tête. T'es trop petit, on mettra du papier journal pour bourrer. Lui, il est petit, mais il est beau. Alors que Dieu fait du sur-mesure. Il n'y a pas un standard pour Dieu. Il y a des êtres humains, puis les êtres humains, il y en a des grands, des petits, des gros, des grands, des blonds, des bruns, des chauves, des yeux bleus, des yeux... Voilà. Et puis, il vit et il fait quelque chose avec chacun d'entre eux. Et la Pentecôte, c'est ça. C'est fini l'époque où il faut tous que vous rentrez dans la même boîte. Je viens vous parler à chacun de vous dans votre langue. Et d'ailleurs, la foule qui est là, qui au début se dit « Ouf, ça c'est des gens qui ont fait la fête, ils sont bu toute la nuit, c'est le matin, ils sont encore bourrés, ils sont pleins de vin doux, hein, c'est dit déjà de façon gentille, mais c'est ça. » Non, Pierre prend la parole et puis il commence à leur expliquer, hein, rempli du Saint-Esprit, il témoigne à Jérusalem, c'est ce qui était annoncé. Et chacun, parce que rappelez-vous, hein, dans les fêtes juives, les gens venaient de tout l'Empire romain. Donc ils étaient tous juifs, ces gens-là, ici. Il n'y avait pas les païens, là. Mais par contre, il y avait des juifs qui avaient grandi dans un pays où on parlait cette langue, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Et ils connaissaient l'hébreu, mais ce n'était pas leur langue. Hein. Voilà. Imaginez que la Pentecôte se passe en Suisse, et puis tout d'un coup, il y a un prédicateur qui parle. Et les Romanches l'entendent en Romanche, et les Suisses-Allemands l'entendent en Suisse-Allemand. Mais attention, le Suisse-Allemand de Bâle l'entend en Suisse-Allemand de Bâle, et le Suisse-Allemand du Valais l'entend en Suisse-Allemand du Valais, et etc. Et puis Dora l'entend avec l'accent de la vallée de Tavannes, la vraie. Hein. Et puis les Italiens l'entendent, chacun dans sa propre langue. Et ils sont là, waouh, ça c'est incroyable. Non seulement Dieu est venu parmi nous, il s'est fait humain, mais en plus, il va parler ma langue à moi, celle que il n'y a que moi qui connais. Et il vient me dire, tu n'as plus besoin qu'on tire des ficelles, tu n'as plus besoin de ressembler à quelque chose, à autre chose. Juste, ne t'éloigne pas et attends, je vais te remplir. Et vous serez mes témoins. C'est intéressant parce que souvent on dit la mission des chrétiens, c'est d'évangéliser. Je ne pense pas qu'il y ait un verset qui dise qu'il faut évangéliser. Jésus a dit, faites des disciples. Faire des disciples, ce n'est pas évangéliser. C'est accompagner quelqu'un d'autre qui est croyant pour, avec lui, cheminer et lui apprendre ce que Christ a fait, ce qu'il a dit, ce que cette bonne nouvelle annonce. Et sinon, il a dit, soyez mes témoins. C'est intéressant parce que un spécialiste peut parler de quelque chose. Un témoin, il parle de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a expérimenté. L'apôtre Pierre va dire plus tard, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons touché, de ce que nous avons goûté concernant la parole de vie. L'étude théorique est importante parce que la Bible, ce n'est pas toujours simple et puis on doit essayer de comprendre. Et il faut, hein, il faut faire ça. Mais attention, il ne faut pas faire que ça. Parce que sinon, on ne sera pas des témoins. On va être des spécialistes. Vous savez, quand vous avez des enfants et que vos enfants, c'est compliqué, ils ont des problèmes et puis vous ne savez pas quoi faire. Et puis vous avez des spécialistes de l'éducation qui viennent vous parler. Ils n'ont pas d'enfants. Ils ont étudié les comportements de l'enfant, l'éducation, les théories, la psychologie, tout ce que vous voulez, et ils viennent vous expliquer comment il faut faire avec des enfants. Ben, pour tous ceux qui ont des enfants, vous savez que vous n'allez pas les écouter longtemps. Hein ? Ah oui, c'est des spécialistes, c'est super, ils ont des diplômes longs comme le bras. Non. Par contre, quand un autre parent vient et vous dit, ben, écoute, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire avec ton enfant parce qu'il n'y en a pas deux les mêmes. Mais je sais ce que tu traverses. J'y suis passé aussi, ou j'y suis aussi dedans. Mais voilà, dans cette situation, Christ m'a aidé. Et qu'est-ce qu'on fait là? Je ne suis pas en train de donner un cours sur comment élever les enfants, je suis en train de témoigner de comment Christ m'a aidé à traverser cette période de ma vie. Et Jésus est très clair. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous ne serez pas des professeurs, vous ne serez pas des spécialistes qui expliquent que le mot grec qui vient de là, de l'hébreu qui vient de là. Ça, on peut le faire pour mieux comprendre. Mais ce n'est pas à ça qu'on a été appelés, c'est à témoigner. Et c'est pour ça que ce n'est pas de programme d'évangélisation qu'on a besoin mieux ficeler, mieux ci, mieux ça. On a besoin de ne pas s'éloigner, d'attendre, de recevoir, d'être rempli, et après on va raconter. On va raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Mais si je viens pour parler de ce qui s'est passé il y a 2000 ans et puis j'y étais pas, je ne suis pas un témoin. Il y a des témoins qui étaient qui en ont parlé, et parce qu'ils m'en ont parlé, je l'ai vécu. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec Jésus et cette femme qu'on appelle la femme samaritaine, là, au puits? Elle rencontre le Christ, elle vit quelque chose d'incroyable avec lui, elle est bouleversée par ce qu'il lui dit, etc. Elle va en courant dans son village et puis elle témoigne. Il m'a dit ça. Tout le monde vient pour écouter Jésus. Et à la fin, c'est dans Jean 4, hein, ils disent, mais nous ne croyons pas à cause de ce que tu nous as dit, mais parce qu'on l'a vu, on l'a entendu. Maintenant, nous aussi, on est des témoins parce que nous aussi, on l'a vécu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés tout simplement à expérimenter la vie de Dieu et à témoigner de ce que nous vivons. Et là, c'est simple parce qu'il n'y a plus besoin d'être un professionnel. J'ai mangé une tarte aux fraises. Cette tarte aux fraises, elle était bonne. Mais bonne, ce n'est pas assez précis. Elle était sucrée, elle était douce, elle était tendre, elle était acide, elle était juteuse, elle était ci, elle était ça. Et elle m'a... Et donc, je rencontre quelqu'un et je lui dis, tu sais quoi? Je viens de manger une tarte aux fraises, mais alors, elle était... Et puis, ben, y a des gens, ils sont poètes, ils vont décrire ça, ça va être... Il y a des gens, ils ne sont pas très doués pour parler, mais leur enthousiasme est le même et leur impact est le même parce qu'ils l'ont goûté et elle était bonne. C'est Pierre ou c'est Jacques qui dit... Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, je pense que c'est Jacques, pas Pierre. Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Si je n'ai pas goûté que le Seigneur est bon, bah, je peux devenir un spécialiste de ce que dit la Bible. C'est super, il en faut. Mais je ne serai pas un témoin. Un témoin, c'est celui qui était. Je me rappelle quand à l'époque où justement j'évangélisais beaucoup et je faisais beaucoup de porte-à-porte et en France, hein, il y a longtemps, et puis souvent on nous ouvrait, on disait « Vous êtes témoin de Jéhovah? Vous êtes témoin de Jéhovah ?» Au bout d'un moment, ça m'énervait et j'avais trouvé une petite blague pour m'en sortir de ça. On me disait « Vous êtes témoin de Jéhovah ?» Non, je n'étais pas à l'accident. C'est un témoin, c'est celui qui va témoigner ce qui s'est passé. Hein. Je n'étais pas à l'accident. Je n'étais pas témoigné, quoi. Voilà, c'était idiot, mais ça permettait de rebondir sur autre chose. Mais on est appelé à être des témoins. Hein. Mais pour ça, il faut le vivre. Et pour le vivre, il faut juste consentir, attendre, rester, se laisser remplir. Et après, effectivement, il faut le courage, ce que nous a partagé Ami ce matin, hein, de ben, y a une situation, puis je ne suis pas là pour leur dire qu'ils ont tort. Je témoigne de ce que moi je vis. Ben, moi, je ne consulte pas les voyantes parce que je n'ai pas besoin de savoir, au-delà du fait que c'est vrai ou c'est pas vrai, on s'en fout. Hein. Ce n'est pas la question. Parce que si on devient des pourfendeurs du mensonge ou de l'hérésie ou de la non-vérité, mais on va passer notre vie à couper les têtes. Mais ce n'est pas le but. On vient et on dit, ben, moi, je vis autre chose. Je vis quelque chose d'incroyable, de magnifique. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il y aura demain, parce que je sais une chose. Demain, Dieu prendra soin de moi. Oh, peut-être que je serai malade, peut-être que je vais mourir, peut-être que je serai au chômage. Mais il sera avec moi. Et il me donnera la force de le traverser. Je le sais. Pourquoi je le sais? Ben parce que la semaine dernière, j'ai eu ce problème-là, et puis je l'ai traversé avec lui. Et puis il y a eu ça, et puis il a traversé avec moi, et puis je peux témoigner de ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est tellement important. On ne peut pas parler de ce qu'on ne vit pas, on ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Je me rappelle, je vais bientôt terminer, vous inquiétez pas, je m'échauffe un peu, mais j'arrive au bout. Et ça m'avait beaucoup amusé, c'était une émission de télé avec M. Dupontel, c'est un acteur. Et puis, avec du caractère un peu. Hein. Et puis, il venait à cette émission pour parler d'un film qu'il avait fait, et il se trouve que le gars qui animait le truc n'avait pas vu le film. Et au bout de quelques minutes, le gars, qui n'était pas malin, c'était vraiment pas un bon professionnel, il a voulu être honnête. Il dit, je dois vous dire, j'ai pas vu le film. Et là, c'est une émission en direct, et le gars, il se lève et il sort. Et puis, c'est la panique, il n'y a plus d'émission, il est parti, quoi. Et ben oui. Hein. Mais en tant que chrétien, souvent, on est comme ce journaliste-là. On connaît quelqu'un qui a vu le Christ, on a lu un livre qui dit que, on a entendu parler de l'autre, il paraît qu'il y a... Ouais, mais... Tu l'as lu, toi, le livre ? Tu as vu le film ? Tu es témoin de quoi ? Ben, je suis témoin d'une chose. Hein. Et quand Jésus était sur terre, c'est comme ça que ça se passait. Lorsque les pharisiens convoquent cet homme que Jésus a guéri, et puis ils essaient de lui faire dire des choses, « Mais ouais, cet homme-là, il était bon, il était mauvais. » Écoutez, moi, je sais qu'une chose. J'étais aveugle et je vois. Débrouillez-vous avec ça. Hein. Et puis là, ben, ils n'ont plus rien à dire. Parce que, ben, voilà, j'étais aveugle et maintenant je vois. J'avais plus d'espérance, j'en ai une. J'étais seul, je ne suis plus seul. Hein. C'était la solitude à l'intérieur. Ben, ça l'est encore des fois, oui, mais souvent ça ne l'est plus. Et puis, le fait qu'on ait goûté que c'était bon, ben, ça fait que dans les moments où je suis vide, je m'en rappelle parce que je l'ai goûté. Gustave Thibon a dit « La foi, c'est ne pas renier dans les ténèbres ce qu'on a vu dans la lumière. » Ce n'est pas inventer des choses, ce n'est pas croire des choses qu'on ne sait pas. C'est que j'étais témoin. Il est venu dans ma vie, je l'ai rencontré. Il y a eu ça. Et puis, ben, oui, aujourd'hui, je ne sens rien peut-être, mais j'ai vécu ça. Et puis, ben, demain, je vais encore vivre autre chose, ou dans une heure, ou dans deux heures. On ne ment pas, on est honnête, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas parfait, ce n'est pas... On est simplement les témoins à Jérusalem, à Judée, en Samarie, et juste aux extrémités de la terre. Et ça, c'est à ça qu'on est appelé. Et puis, on va avancer comme ça, mais cette grande, belle nouvelle, ben, nous sommes enfants de Dieu, nous avons un cœur nouveau, nous avons son esprit, et la dernière pensée que je veux vous laisser, c'est le fait que ben, ce n'est pas une chose qui se passe une fois pour toujours. Hein. Là, ça s'est passé la première fois. Ça se passe ben, le jour où on accepte Christ, il y a un jour particulier, mais pour certains d'entre nous, ce n'est pas un jour où on a accepté Christ, ça s'est passé dans le temps. Hein. Mais c'est une expérience qui doit se répéter encore et encore. Paul dit, soyez remplis de l'Esprit. Il ne dit pas, oh, vous l'avez été une fois, rappelez-vous, c'était super. Non, soyez continuellement en train d'être remplis de l'Esprit. Hein. Ça serait plus facile à dire en anglais, hein, avec les ingles. Hein. Soyez continuellement en train d'être rempli de l'Esprit. Et pour ça, qu'est-ce que je dois faire ? Ben, c'est simple, ne pas m'éloigner, attendre et consentir. Consentir, ça veut dire accepter d'aligner ma volonté sur la volonté de Dieu. Hein ? Oui, moi j'espérais que tu serais un grand roi et que tu libérerais Israël. Moi j'espérais que tu me rendrais riche. J'espérais que mon mariage serait heureux, j'espérais que mes enfants seraient en bonne santé, j'espérais que je trouverais quelqu'un, j'espérais que... Ben non. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, mais maintenant un autre vient et te met une ceinture et t'amène là où tu ne voulais pas aller. Et puis moi, librement, parce que je ne suis pas obligé, je vais dire à Dieu, ben, je vais attendre, je ne vais pas m'éloigner et je vais être d'accord avec ce que tu vas me proposer. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'accepte de signer. Pourquoi ? Ben parce que je te connais, parce que tu as tout fait, parce que tu es merveilleux. Et on va avancer comme ça. Coucou ! Alors Seigneur, merci parce que cette Pentecôte, c'était la première fois, mais ça peut arriver, ça doit arriver encore et encore dans nos vies, chaque jour et plusieurs fois par jour. Apprends-nous, apprends-moi à attendre, à ne pas m'éloigner. À consentir à ta volonté, afin d'être rempli de toi et de pouvoir témoigner que c'est bon, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est extraordinaire de te connaître et de vivre avec toi. Amen.